15h, 16h,
sans rendez-vous sur Europe 1. Mélanie Gomez.
Bonjour et bienvenue dans Sans Rendez-vous, votre émission santé et bien-être. Tous les jours de 15h à 16h, on vous reçoit en direct dans ce studio. On parle de vos petits et gros soucis de santé, de ceux qui vous préoccupent, de ceux qui vous font même peur parfois. Et ici, on essaye de vous rassurer, de vous aider à comprendre tout ça. Promis, on le fait tous les jours dans la bonne humeur. Car on a de la chance sur Europe 1, on vous a dégoûté un médecin très sympa qui parle toujours sans tabou, c'est le docteur Dimi Mohamed. Bonjour Dimi.
Bonjour Mélanie, ça me va très bien cette description.
Sympa, je dis pas intelligent ni rien, sympa.
Non mais sympa,
c'est,
ça va.
C'est neutre, c'est ça. Allez, au sommaire aujourd'hui, notre grand dossier sera consacré à la fabrication de vos cosmétiques maison. C'est vrai qu'on se méfie de plus en plus des produits chimiques qu'on trouve partout, y compris dans les produits consommés sur la peau. Et bien notre invitée, Pauline Dehec, spécialiste du secteur cosmétique, va nous donner les bases et ses recettes aussi, notamment de déodorants ou de sérums hydratants faits maison pour chouchouter notre corps au naturel. Le docteur Dimi Mohamed, lui, nous livrera son bon conseil du jour. Aujourd'hui, il va nous expliquer si l'expression « attention, tu vas prendre froid » veut réellement dire quelque chose. Le froid peut-il réellement nous rendre malades? Ensuite, dans notre chronique « Les maux du quotidien », on va parler encore d'un risque avec le froid et surtout le chauffage, les intoxications au monoxyde de carbone, comment les éviter, comment les reconnaître, on vous dira tout. Enfin, vers 15h50, ce sera la chronique sexo de l'émission. Catherine Blanc, notre sexologue, nous dira comment remédier à l'âge adulte à l'absence d'éducation sexuelle dans son enfance.
Mélanie Gomez vous reçoit sans rendez-vous sur Europe 1.
Et donc tout de suite, pour ouvrir votre magazine santé, le vrai faux, vos questions au 3921 sur le répondeur d'Europe 1. Et donc on écoute la première question, c'est celle d'Olivier, 52 ans.
Bonjour Mélanie, bonjour docteur Mohamed. Je voulais savoir si il y avait une technique pour se couper les ongles, parce que régulièrement je me fais mal et j'ai des ongles incarnés. Je voulais savoir s'il y avait une technique ou s'il fallait aller consulter un podologue. Voilà, merci beaucoup, bonne journée.
Alors Dimi, c'est une question très intéressante, parce que c'est vrai qu'on a l'impression que les ongles des pieds, les pieds globalement, c'est pas très important, c'est au bout du corps, on s'en fiche un peu. Et en gros, à part si on a des problèmes d'ongles incarnés, le fait de se couper les pieds, les ongles, on fait pas très attention. Mais je crois que bien les couper, prendre soin de ses pieds surtout, c'est vraiment primordial.
Oui, c'est important de chouchouter ses pieds. Même si on n'est pas fétichiste des pieds, il faut vraiment prendre soin, il faut vraiment les observer de façon attentive. Parce que finalement, lorsqu'on est un peu âgé, si on a des pieds en mauvaise santé, et bien à ce moment-là, on marche moins. Donc on a une moins bonne activité physique. Et souvent, les personnes âgées peuvent être limitées par ces ongles qui leur font mal. Et puis, parallèlement à ça, le fait de bien les observer, le fait de bien les sécher, de bien s'en occuper, permet de limiter certaines choses. La mycose, que certains connaissent bien, notamment la mycose du pied sportif, de l'athlète.
Je vais vous dire comme vous, Mélanie, parce qu'à chaque fois qu'il y a un truc un peu...
Le secret médical, il y a certaines limites, donc je m'arrêterai là. Mais voilà, les mycoses, certaines infections, des verrues, et puis certaines déformations. On a parlé à un moment de l'hallux valgus, d'avoir l'orteil déformé. Prendre soin de ses pieds, c'est prendre soin de sa santé, tout simplement.
D'accord. Alors, on pense bien donc à les examiner, ses pieds, vous nous l'avez dit. Et même si on a tendance à pas trop s'y attarder, on essaie de le faire de temps en temps. Mais précisément, quand on veut se couper les ongles, ça arrive quand même au bout de quelques semaines. Comment on fait pour bien les couper? Il y a une technique?
Oui, alors je sais que vous aimez bien les ronger, vous, Mélanie, mais c'est pas du tout la méthode adaptée. Ronger ses pieds, c'est compliqué parce que, il faut être très souple. Je crois que vous avez cette qualité, vous êtes très bien.
La danse classique, ça tombe bien.
Exactement. Mais c'est pas très hygiénique. Vous risquez, au contraire, de développer des panaries, c'est pas très sympa. Donc il faut les faire, il faut couper les ongles. L'idéal, c'est après la douche, parce que l'humidité ramollit ces ongles qui sont durs comme du bois, comme du béton, c'est pas très sympa. Et puis avec un ciseau propre.
Ou un coupe-ongle.
Ou un coupe-ongle. Il faut ne pas oublier à le désinfecter lorsqu'il est un petit peu traîné. Et puis le but du jeu, c'est de les couper à angle droit, à 90 degrés. Souvent, on a tendance à vouloir suivre le contour de la découpe de l'ongle. Et ce qui fait que par conséquent, on peut avoir un ongle incarné. Et là, ça fait mal. On ne coupe pas à ras-bord. Il faut laisser 2 à 3 mm pour une meilleure repousse. Et si jamais il y a une petite plaie, on n'hésite pas à désinfecter.
Et on nettoie aussi un petit peu le dessous de l'ongle de temps en temps, ça fait du bien,
mais sans mettre un ciseau pointu.
Mais on nettoie le dessous également. Et pour ceux qui voudraient vraiment aller jusqu'au bout de la méthode des pros, on va dire, pour se couper les ongles, je rajoute qu'on peut aussi s'occuper un petit peu des cuticules sur le côté, donc les petites peaux, pareil, qu'on découpe pas au coupe-ongles, mais on utilise un coupe-cuticule exprès. Dimi, si on s'y prend mal et qu'on n'a rien compris à votre technique, même si c'était très clair, vous nous l'avez bien expliqué, l'idéal c'est aussi d'aller voir un podologue pédicure de temps en temps.
Exactement, c'est le spécialiste du pied. Il ne faut pas hésiter à aller le consulter, notamment lorsque vous êtes diabétique. Les diabétiques ont souvent des infections du pied sans s'en rendre compte, car une atteinte sensitive, les nerfs, on les sent moins bien. Donc on ne se rend pas compte qu'on a des pieds abîmés, et lorsqu'on s'en rend compte, c'est souvent trop tard. Donc aller voir son podologue vous permet de prendre soin de vos pieds lorsque la découpe est difficile de certains ongles. Si vous avez des ongles incarnés qui, finalement, vous avez du mal à les gérer vous-même, le podologue pourra s'en occuper, et puis il observe aussi le reste. Parfois, on a cet oignon qui peut
des
nous faire mal, des callosités.
Ouais.
Donc le podologue, c'est vraiment le spécialiste du pied. Ce n'est pas remboursé, certaines mutuelles peuvent le prendre en charge, mais c'est un très bon investissement.
Très bien. Alors merci beaucoup Jimmy, on conseille donc on va tous chez le podologue au moins une fois par an, au moins une fois en tout cas pour qu'il nous montre si on ne sait pas le faire comment se couper les ongles des pieds. On va passer à la deuxième question d'auditeur. Cette fois c'est Bruno, 46 ans, on l'écoute.
Bonjour Mélanie, bonjour docteur Mohamed. Je vous appelle parce que j'ai pris des médicaments et en fait j'ai des effets secondaires qui ne sont pas écrits sur la notice, ils ne sont pas déclarés. Du coup je ne sais pas à qui le reporter, à qui en faire part, à qui je dois en parler. Merci beaucoup, au revoir, bonne journée.
Alors là encore, une très bonne question de Jimmy, d'autant que la procédure, je crois qu'elle a changé récemment, enfin en tout cas depuis 2017, on peut effectivement signaler un effet secondaire indésirable d'un médicament ou même d'un autre produit, une crème de jour même, hein, mais on peut le faire surtout sur un seul et même site internet, je crois.
Exactement, ouais, la première des choses déjà, c'est de demander au médecin les informations lorsque vous prenez un traitement, ensuite vous avez votre pharmacien qui peut vous donner du conseil, puis enfin vous avez la notice, parce qu'il est évident que si vous prenez un antibiotique, il peut vous donner la diarrhée, et là ça sert à rien de le signaler. En revanche, depuis mars 2017, que ce soit les professionnels de santé ou les patients peuvent signaler sur un site internet, ça s'appelle signalement-santé.gouv.fr. Vous pouvez mettre tous les symptômes et effets indésirables que vous avez subis.
Bon, et rapidement, donc on va sur ce site et on fait quoi concrètement?
Il y a un formulaire que vous téléchargez, vous mettez le nom, prénom, l'effet indésirable.
Dans le plus de détails possible.
Exactement.
Hein, je crois qu'il faut vraiment dire à quel moment on l'a pris, quand est-ce qu'ils sont survenus, je ne sais pas, les boutons, les nausées, les vomissements.
Exactement. Voilà, et vous pouvez l'envoyer ensuite soit par mail, soit par voie postale classique. Et puis, cette information est transmise ensuite à un centre de pharmacovigilance qui vous recontactera s'il y a énormément d'effets secondaires chez beaucoup de personnes. L'agence du médicament fait ensuite une alerte pour parfois retirer certains médicaments du marché.
Merci beaucoup Jimmy. Alors si vous aussi, comme Bruno qu'on vient d'entendre, vous voulez nous laisser vos questions santé, bien-être au 39-21, 50 centimes d'euros la minute, surtout n'hésitez pas.
Europe 1.
Dans un instant, le docteur Jimmy Mohamed va vous donner son bon conseil du jour. Aujourd'hui, il va nous expliquer si on peut réellement attraper froid, comme on a tendance à tous le dire. Et puis, on accueillera aussi notre invitée, Pauline Dehec, spécialiste en cosmétique. Elle va nous donner tous ses conseils pour se lancer dans la fabrication de produits de beauté maison et tout à fait naturel pour chouchouter notre peau. A tout de suite sur Europe 1.
Mélanie Gomez sur Europe 1. Europe 1.
Sans rendez-vous.
Mélanie Gomez.
Heureuse de vous retrouver dans Sans Rendez-vous, votre émission Santé Bien-être. Nous sommes ensemble comme chaque jour de la semaine jusqu'à 16h. Alors avant de retrouver dans quelques minutes notre invitée Pauline Dehec, avec qui on va apprendre à fabriquer nos cosmétiques maison, c'est le moment du bon conseil du docteur Jimmy Mohamed. Alors Jimmy, ça y est, hein, il commence à faire bien froid, les nez qui coulent partout. C'est un peu dégoûtant ce que je raconte là.
Mais non mais bon, c'est vrai, c'est
ça
la
coule,
réalité.
Ça coule un peu chez tout le monde, vous en voyez d'ailleurs tous les matins en consultation. Mais les gens ont tendance à dire à cette période, attention, tu vas prendre froid. Est-ce que vraiment le froid peut nous faire tomber malade?
Alors, ça a été le coupable idéal. Durant des siècles, on a vu des maladies revenir de façon un peu régulière et cyclique sur certaines saisons. Ils se sont dit, s'il fait froid et qu'on tombe malade, c'est donc que l'hiver et le froid est responsable de virus. D'autant plus que lorsqu'on a de la température, on commence par une sensation de frisson. On frissonne, on grelotte et à ce moment-là, on se dit, le froid est rentré
c'est
en
vrai.
Nous et donc on est tombé malade. Et il a fallu attendre 1930 pour identifier le premier virus, notamment de la grippe, et de se rendre compte que ce n'était pas le froid, c'était des micro-organismes, que ce soit des virus ou des bactéries. Et en ce qui concerne le fameux rhume avec le nez qui coule, il a fallu attendre les années 50 avant d'identifier le premier virus. Et donc non, on ne tombe pas à cause du froid, c'est à cause de petites infections.
Donc sans virus, sans bactéries, pas de grippe, pas d'angine ou de bronchite quoi.
Exactement. Et donc Mélanie, si vous souhaitez être toute nue sur votre terrasse,
jamais non.
Aucun problème, vous n'attraperez pas de maladie tant que vous ne rencontrez pas de virus. Donc
c'est pas
le
très
froid.
Agréable tout ça.
Oui, parce que le risque principal, c'est l'hypothermie. Mais en revanche, le fait d'être découvert dans des zones où il n'y a pas de virus, et bien à ce moment-là, on ne tombe pas malade. C'est l'infection virale et donc un virus qui fait qu'on tombe malade.
Mais pourtant, vraiment, les épidémies, on les voit qu'en hiver, les grosses épidémies.
Exactement. Tout simplement parce que les virus survivent plus longtemps dans le froid, sur des surfaces inertes. Ils arrivent à survivre plus d'une dizaine d'heures, ce qui fait qu'on les rencontre plus facilement. Il y a une deuxième chose qui fait qu'on tombe malade, c'est que en hiver, vous savez, au niveau des bronches, on a des cils. Mmh. Ces cils servent à évacuer des bactéries et des virus et normalement, ils sont souples comme nos sourcils.
D'accord.
Ces petits cils, ils drainent correctement les virus. Et lorsqu'on a froid, ces cils deviennent très rigides et comme un peigne. Et la bactérie, au lieu d'être évacuée,
elle s'accroche. Oh là, c'est
elle
facile
stagne.
À comprendre.
Le
c'est
micro-organisme arrive et là, on tombe malade. D'où l'idée de quand même mettre des gants et des écharpes pour limiter ce risque. Encore une fois, c'est la période de la vaccination contre la grippe. Donc, si vous voulez éviter de choper la grippe, faut vous vacciner. Lavez-vous bien les mains. Et quand on tombe malade, on évite de se serrer la main. Un petit check où on se fait la bise, c'est toujours mieux.
Merci beaucoup, docteur Jimmy Mohamed, pour tous ces conseils. Et donc, tout de suite, nous accueillons notre invitée pour le dossier du jour. C'est Pauline Dehec. Dans une autre vie, elle a bossé 10 ans dans l'industrie des cosmétiques. Et aujourd'hui, elle est surtout l'auteur du livre « Ma cosmétique minimaliste, le guide pratique des cosmétiques maison » paru chez Thierry Soucard.
15h, 16h,
sans rendez-vous sur Europe 1.
Bonjour Pauline.
Bonjour Mélanie.
Alors avec vous aujourd'hui, on va faire une émission très pratique. C'est ce qu'on a vendu à nos invités, à nos auditeurs, puisque vous allez nous donner donc vos meilleures recettes de cosmétiques maison et naturelles. Mais d'abord, vous allez nous aider quand même à faire un petit peu le tri chez nous sur ce qu'on a déjà dans nos placards, les sérums, les crèmes, les eaux micellaires, etc. D'abord, je crois que pour se débarrasser de ce qui est pas bon, en tout cas, au moins on doit se débarrasser déjà du périmé. Mais c'est pas évident de voir comment c'est périmé un produit. Il y a pas toujours la date non dessus.
Ouais, ça c'est vraiment la première étape de faire le tri un peu dans ce qu'on a, parce qu'on a tendance stocker trop de choses, un peu comme son placard de vêtements. On a beaucoup de cosmétiques dont on ne sert pas, et notamment des cosmétiques qui sont périmés.
Et où est la date sur les cosmétiques alors?
Ça c'est une bonne question. Il y a certains cosmétiques où il y a un sigle avec un petit pot ouvert, et il peut être indiqué par exemple 6M ou 12M. Ah. Ça veut dire 6 mois ou 12 mois par exemple.
C'est-à-dire qu'on peut les utiliser 6 mois après l'ouverture, c'est ça?
Exactement, c'est ce qu'on appelle la PAO, et puis c'est la période après ouverture, donc la période pendant laquelle on peut utiliser le cosmétique. Passé cette date, le cosmétique effectivement peut être périmé. Dans ces cas-là, il ne faut plus l'utiliser.
Finalement, ça se garde maximum un an, quoi, une crème en fait.
Ça dépend les produits, ça dépend, mais généralement c'est ça, exactement.
Jimmy ?
Bon, une fois qu'on s'est débarrassé de ce qui ne nous sert pas ou ce qui est périmé, on fait comment pour décrypter les étiquettes, pour savoir si un cosmétique est de qualité ? Parce que souvent, c'est des ingrédients qu'on ne comprend absolument pas, donc comment on fait ?
Alors, il faut regarder la petite liste, donc la liste Inky, qui est la liste des ingrédients. Après, c'est vrai que c'est pas très simple, parce que les listes aujourd'hui, elles sont à rallonge et qu'on parle pas tous
latin ou grec.
Ouais, voilà, c'est ça. Il y a certains ingrédients qu'il faut repérer, notamment tout ce qui est huile minérale, donc des huiles issues de l'industrie pétrochimique, tout simplement.
C'est quoi ces noms-là?
Alors, ça peut être marqué, par exemple, mineral oil, ou pétrolatum, s'il y a des mots comme ça, ou paraffiniquide, paraffinum liquidum.
Ça, on jette.
Ça, disons que c'est des huiles qui sont issues de l'industrie pétrochimique, c'est des huiles mortes qui apportent rien à la peau, qui sont là pour remplir, entre guillemets, le cosmétique, mais qui n'ont aucune affinité avec la peau.
Alors, Pauline Dehec, on n'en a évidemment pas terminé, surtout vous restez avec nous.
Europe 1.
Dans un instant, on passe en cuisine, enfin en cuisine ou ailleurs, hein, chez vous. On passe en tout cas à la fabrication de nos cosmétiques maison. On fera le point sur les produits de base qu'il faut se procurer pour se lancer. Les règles d'hygiène aussi à respecter quand même pour faire ces sérums, ces déos maison qu'on va mettre ensuite sur sa peau. On va tout vous expliquer. À tout de suite sur Europe 1.
Europe 1, Mélanie Gomez.
Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission Santé, Bien-être, une émission sans rendez-vous. Vous êtes tous les bienvenus. À mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed et notre invitée Pauline Dehec, spécialiste des cosmétiques maison. Elle a d'ailleurs ouvert en 2016 un concept d'atelier boutique qui s'appelle Mademoiselle Biloba. Alors Pauline, vous allez nous donner bien sûr quelques recettes pour se lancer dans la fabrication de nos produits beauté maison. Mais d'abord, j'imagine qu'il faut un petit peu s'équiper quand même avant de se lancer. Qu'est-ce qu'on achète comme ustensile, ou qu'est-ce qu'il faut avoir absolument à la maison pour pouvoir fabriquer, je sais pas, un déo, un sérum, je sais pas, des bols, qu'est-ce qu'il faut spécialement avoir?
Alors c'est vrai qu'il faut un minimum de choses, c'est un peu comme quand vous vous lancez dans la pâtisserie, si vous faites des crêpes sans poêle, ça va pas fonctionner. Mais en réalité, c'est des choses que vous avez souvent déjà chez vous, puisque y a pas mal de choses qui se font au bain-marie, et puis si vous faites fondre du chocolat pour faire de la pâtisserie, vous avez déjà finalement
au moins une casserole,
là, voilà, c'est ça. Ouais. C'est juste qu'il faut des petits récipients, parce que généralement, c'est des petites quantités qu'on fait, on va pas faire un kilo de crème non plus, et du coup, il faut que ça s'adapte à la quantité qu'on va faire, mais voilà, des petites choses, un petit fouet.
Des spatules.
Spatules, des bols qui résistent à la chaleur, des choses comme ça.
Il ne faut pas investir dans une petite balance pour tout ce qui est grammes, enfin savoir exactement à quel milligramme de je ne sais pas quoi, de gouttes de ça il faut mettre, ou si ou ça.
Alors, il y a deux écoles, pardon. On peut faire des recettes très précises, dosées au dixième de gramme près. Et dans ces cas-là, effectivement, il faudra une balance, puisque souvent la balance de cuisine n'est pas assez précise. Il y a des recettes qui peuvent être faites en cuillère.
Dans votre livre, c'est comme ça.
Ça.
Vous dites qu'il faut 3 cuillères de ça, 3 cuillères de ci à
voilà,
café.
Voilà, exactement. Ouais, et donc là,
il n'y a pas besoin de balance. Jimmy ?
Et ensuite, il y a les matières premières qu'il faut faire fondre, mais vous dites qu'il ne faut pas le faire avec un micro-ondes. Pourquoi ça ?
Disons qu'avec le micro-ondes, on ne maîtrise pas vraiment la fonte des ingrédients et la chaleur. Et par exemple, les huiles végétales sont très sensibles à la chaleur. On risque de les dénaturer si on les brûle, ou alors de faire qu'elles vont s'oxyder plus vite. Donc c'est mieux les faire doucement fondre au bain-marie que d'aller les brûler au micro-ondes.
Alors après, évidemment, quand on fait de la cosmétique maison, c'est comme quand on cuisine, il y a un petit peu un minimum d'hygiène quand même, surtout que c'est des choses qu'on va mettre sur sa peau tous les jours. Donc évidemment, avant de commencer, on se lave les mains, mais on désinfecte aussi tout ce qu'on va utiliser, les spatules, les ingrédients, etc. Donc pas les ingrédients, mais les spatules, les bols, les récipients. Et on peut même fabriquer son désinfectant maison, comment ?
Alors, on peut fabriquer son propre désinfectant à partir d'alcool dénaturé à 70 degrés, tout simplement. Et on peut ajouter des petites gouttes d'huile essentielle dedans pour que ça sente bon et pour donner un petit peu plus l'envie de nettoyer. Parce qu'on a tendance à oublier cette étape qui est vraiment, vraiment primordiale.
Jimmy ?
Et par la suite, les cosmétiques maison qu'on peut faire, ils sont certains plus sensibles au développement de champignons. Et notamment ceux qui ne contiennent pas apparemment de produits gras. Donc, il faudrait faire un peu plus attention.
Ils sont plus fragiles, hein, c'est ça. Alors, et aux bactéries.
Oui.
Aux,
ouais. Dès lors qu'il y a de l'eau ou un produit aqueux dans un produit, ça devient un milieu propice au développement de micro-organismes, les bactéries, les moisissures, les levures. Donc là, il faut veiller à une bonne conservation et on a besoin de conservateurs comme l'extrait de pépins pamplemousse qui va limiter la prolifération des bactéries.
Mais ce sont des conservateurs naturels du coup et pas les trucs chimiques qu'on met dans les produits industriels, hein, c'est ça ?
Oui, l'extrait de pépins de pamplemousse, oui, c'est un conservateur naturel qui permet une durée de un mois de conservation à peu près.
D'accord.
Des cosmétiques.
Par contre, ces cosmétiques maison, il faut savoir qu'ils se gardent moins longtemps que les produits effectivement qu'on achète en supermarché, ça c'est sûr.
Ouais. Pour une crème, c'est en moyenne un mois avec l'extrait de pépins de pamplemousse. Tout ce qui est corps gras, tout ce qui est baume, huile, sérum, là c'est beaucoup plus long, ça peut être six mois. Le tout, c'est qu'il faut, ça va rancir un jour ou l'autre, donc il ne faut pas appliquer un cosmétique qui a ranci sur sa peau.
Oui, dès qu'il y a une drôle d'odeur ou une drôle de couleur, on jette. Hein,
changement d'odeur, couleur, texture. Mmh. Ouais.
Donc ce qui est très important, c'est de s'équiper peut-être d'étiquettes quand même pour marquer les contenants dans lesquels on va mettre les crèmes fabriquées, pour bien dire je l'ai fabriqué tel jour, je le garde tant de jours. Et il y en a certains, ils se conservent même au frigo, je crois. Hein.
Ouais, en tout cas, moi, c'est ce que je préconise. Dès qu'il y a de l'eau, dès qu'il y a une phase aqueuse, on met tout au frais, comme ça, on est sûr. C'est un peu comme lorsque vous cuisinez, hein, vous ne laissez pas vos plats préparés finalement chez vous, dans votre cuisine, vous les mettez au frais, bah là, c'est exactement pareil.
Et tout se teste aussi avant, on est d'accord, hein, quand on a fait des cosmétiques maison, après, on va rentrer dans les recettes, hein, mais on teste dans le creux du coude, c'est ça, dans le pli du coude ?
Dans le pli du coude, là où la peau est assez fragile, assez sensible, on attend deux jours. S'il n'y a pas de réaction, là, on peut l'utiliser sur soi.
Merci Pauline Dehaecq. On va poursuivre cette discussion dans très peu de temps. Surtout, vous restez avec nous.
Europe 1.
Dans un instant, on passe enfin aux recettes de cosmétiques maison. On va vous apprendre, par exemple, à fabriquer un sérum hydratant et même un déodorant efficace mais naturel. On vous donnera aussi la recette du liniment, un produit très tendance pour nettoyer les fesses des bébés. Et puis, vous verrez, ce liniment, il est très simple à fabriquer au lieu de l'acheter où on va le faire ensemble. On va tout vous expliquer. Restez avec nous sur Europe 1.
Mélanie Gomez sur Europe 1. Mélanie Gomez vous reçoit sans rendez-vous sur Europe 1.
De retour sur Europe 1 avec le docteur Jimmy Mohamed et notre invité Pauline Dehaecq, spécialiste des cosmétiques maison, des produits naturels sans substances chimiques pour chouchouter notre corps sans danger. Alors Pauline, on va passer aux recettes à présent, mais avant de commencer, dans votre livre, vous dites qu'en gros, si on veut se lancer, si on veut démarrer en achetant 5 ingrédients de base, on a nécessaire pour toute la routine beauté. C'est quoi ces ingrédients ? C'est 5 ingrédients qu'on peut avoir à la maison pour démarrer.
Exactement. Alors, le premier ingrédient, c'est avoir une huile sèche qui va servir à la fois de démaquillant et puis ça peut servir aussi d'huile nourrissante pour tout le corps et le visage.
Ça peut être une huile de quoi, par exemple ?
Alors, l'huile de noisette, qui est une très bonne huile. En plus, on en trouve de l'huile française. Donc, ça peut être intéressant.
Mmh. Ensuite,
On va avoir le gel d'aloe vera, qui est à la fois un hydratant, quelque chose qui va apaiser la peau aussi. On a aussi le beurre de karité, qui va être très nourrissant. Et là, en ce moment, c'est l'hiver pour tout ce qui est peau de croco, lèvres gercées. C'est un ingrédient brut qui va nourrir la peau et l'assouplir. On peut avoir un hydrolat aussi.
Un hydrolat ? J'ai l'impression que c'est une tisane, mais je ne sais pas.
C'est un produit qui est issu de la distillation des plantes. On peut l'appeler eau florale quand ça vient d'une fleur. Mmh. Typiquement, le plus connu, c'est l'hydrolat de rose ou l'hydrolat de lavande, qui sont des lotions, finalement, qu'on peut utiliser.
C'est la base, en fait. Hein. Ça aussi, c'est une base pour après créer d'autres cosmétiques, hein, c'est ça ?
Oui, ça peut être une base qui remplace l'eau dans un cosmétique. Ou ça peut être une lotion tonique pour le visage, vraiment très douce. Quoi.
Voilà. Et je crois qu'on peut avoir aussi une argile en plus pour compléter les 5 à la maison pour commencer. Si vous achetez ça, déjà, vous avez un bon kit de démarrage. Alors, on va passer quand même aux recettes. On va commencer par le déodorant maison. C'est vrai qu'on se méfie de plus en plus des déos dans le commerce. On a parlé beaucoup des sels d'aluminium qui pourraient potentiellement être toxiques.
On ne sait jamais lequel choisir. Moi, je vais dedans, je regarde, je me dis, oh là là, qu'est-ce que je vais mettre sous mes bras ?
L'aluminium, il y en a quasiment partout. Donc, quand on se méfie, on a envie de savoir votre recette. Du coup, on met quoi dans un déo ? Les ingrédients d'un déo maison, c'est quoi ?
Alors, dans un déo maison, donc sous forme de baume, on va mettre du beurre de karité, de l'huile de coco qu'on va faire fondre. Ça va être vraiment la base de ce baume. Et on peut ajouter dedans une fécule, donc ça peut être une fécule de maïs ou là de l'arroroute, qui va absorber à la fois l'excès de gras du baume et puis la sudation, et également du bicarbonate de soude, qui va être le principe actif, entre guillemets, de notre déo ici.
Dimi ?
Et on fait comment là ? On doit mélanger tout ça un peu n'importe comment ou il y a une règle ?
Alors, il y a quand même une règle. On fait fondre au bain-marie le beurre de cacao et l'huile, le beurre de karité, excusez-moi, et l'huile de coco ensemble. Et puis, une fois que c'est fondu, on ajoute les poudres, l'arrowroot et le bicarbonate de soude qui est l'antioxydant.
Et on se tartine ça tous les bras, sous les bras,
tartine,
tous les matins.
Exactement, ce tartine.
Ça marche, pour de vrai.
Ouais. Ça marche pour de vrai parce qu'en fait, le bicarbonate de soude, c'est ce qui va permettre de lutter contre la prolifération des bactéries qui sont à l'origine
de l'odeur,
des mauvaises odeurs.
De la mauvaise.
Exactement.
Il n'y a pas de texture bizarre parce que je me dis mettre un truc de non.
Ça me fait bizarre de mettre une crème,
oui,
sous, les
ça,
bras,
crème sous les bras.
Mais bon, non, c'est ni gras, ça tache pas les vêtements, ça fonctionne très très bien.
Et ça se conserve combien de temps à la maison, ça en pot, on peut le garder combien de temps ce déo maison?
À peu près 6 mois.
Ah, quand même, ici, c'est pas mal. Ouais, oui, de toute façon, le temps d'un déo, c'est à peu près ça. Hein, donc,
Vous ne mettez pas souvent du dedans. Excusez-moi, ça tient pas 6 mois, mais dedans. Excusez-moi, faites un effort. 6 mois, du coup, ça coûte moins cher en plus.
Ça va, ouais,
non, mais 6 mois
pas...
dedans, vous rigolez.
Moi,
il tient 2 mois grand maximum.
Ouais,
alors, en tout cas, quand on se douche tous les jours, Mélanie, je ne sais pas, mais c'est encore un autre débat. Mais si on tient ça 6 mois, est-ce que finalement, financièrement, c'est intéressant ou ça va nous coûter cher? Parce qu'on a l'impression que c'est des ingrédients qui peuvent aussi coûter un certain prix.
Alors là, le coût de revient du déo, il est à peu près entre 2 et 3 euros.
Ah oui, c'est pas très cher.
Ouais, c'est vraiment ouais, c'est économique.
Donc il dure beaucoup plus longtemps que votre déo industriel, Jimmy, et c'est beaucoup moins cher. On va passer à une deuxième recette, celle du liniment. C'est un produit un peu star là en ce moment des jeunes parents. Tout le monde nettoie les fesses de ses enfants avec ça. Enfin, la plupart des parents. On l'achète en gros pot comme ça. On sait que c'est un mélange un peu d'huile d'olive, de je sais plus trop quoi. Mais vous, vous proposez de le faire maison. Finalement, apparemment, c'est assez simple et ça revient, j'imagine, moins cher. Comment on le fabrique ce liniment maison?
Alors, pour faire du liniment, on a besoin d'une huile végétale. Donc, habituellement, c'est l'huile d'olive, comme vous l'avez dit, Mélanie. Mais moi, je propose de le remplacer par l'huile d'amande douce qui aura une odeur moins marquée et surtout un fini moins riche.
Ça fait moins salade, huile à salade sur les fesses de bébé, quoi. C'est ça.
Ouais, moins vinaigrette, ouais. C'est ça. Donc, on mélange de l'huile d'amande douce avec de l'eau de chaux. On peut rajouter de la cire d'abeille qui va permettre d'épaissir et surtout de stabiliser le produit dans le temps, éviter qu'on doive secouer finalement la bouteille à chaque utilisation.
Dimi ?
Et ça coûte moins cher en plus du coup, on fait des économies là aussi ? Parce que ça c'est des choses qu'on trouve chez le pharmacien. L'eau de chaux, on trouve ça où ?
L'eau de chaux, on peut la trouver en pharmacie ou on peut la trouver dans les boutiques spécialisées dans la fabrication de cosmétiques maison.
D'accord,
et ça coûte beaucoup moins cher. De toute façon, tous les cosmétiques faits soi-même, ça coûte nettement moins cher que de les acheter dans le commerce.
Juste un petit bonus là, j'ai une petite recette que j'avais pas prévue mais que je vois dans votre bouquin, le gommage peau de banane, c'est quoi ce truc là? J'adore, moi je sais pas pourquoi. La peau de banane, je la jette mais vous nous dites il faut la mettre sur le visage en fait, c'est ça?
Alors comment on recycle, dans le même temps ça vous pousse à manger des bananes aussi.
C'est ça.
C'est bon pour la santé. On récupère la peau donc fraîche, on saupoudre d'un peu de sucre, donc un sucre assez fin quand même, et puis on se passe la banane sur le corps. Ça peut être le corps mouillé, sous la douche par exemple, et ça permet de faire un gommage et en même temps de profiter des vertus de la peau de banane.
Il y a quoi dans la peau de banane qui nous intéresse ?
Alors ça va être riche en mucilage et donc c'est quelque chose qui va permettre d'adoucir la peau, d'hydrater en surface aussi.
Vous saviez ça, Jimmy ? Vous en faites quoi des peaux de banane, vous, habituellement ?
Moi, en général,
vous
les... mes enfants les jettent dans la voiture et les laissent moisir et je m'en rends compte au bout de quelques jours. Donc la prochaine fois, j'en mettrai sur mon visage.
C'est ça, voilà. C'est ça, super. Alors vous allez nous donner une autre recette maintenant, celle d'un petit sérum hydratant, un peu protecteur. Là, il fait froid, on est un peu la peau agressée par tout ce froid. Comment on le fait, ce petit sérum hydratant à la maison ? On peut mettre quoi dedans ?
Alors un sérum, c'est un mélange d'huile végétale qu'on va pouvoir choisir en fonction de son type de peau, peau grasse, peau sèche.
Pour Dimi, la peau grasse à boutons, on met quoi du coup ?
Alors peau grasse à boutons, on
merci
met de l'huile.
Pense à moi et à ma peau.
On met de l'huile de noisette. Donc, j'en parlais tout à l'heure, qui est une huile sèche, qui va permettre de réguler aussi la sécrétion de sébum. Oui. Et on mélange cette huile végétale avec une huile essentielle, pareil au choix. On peut mettre à peu près pour 30 ml d'huile, 7 gouttes d'huile essentielle. Et là, typiquement, pour l'huile essentielle purifiante, on peut utiliser le tea tree ou le romarin à verbenone, qui sont des huiles essentielles assainissantes.
Ça va vous faire du bien, Jimmy.
Non, mais vous moquez de moi. Bon, non, mais c'est des super conseils. Non, mais c'est vrai, le déodorant, le liniment, ce qu'on met sur le visage, souvent ce qu'on achète, ça coûte plutôt cher, pas forcément de qualité. Donc là, on a des recettes maison. Non, ne vous moquez pas de moi, Mélanie. Ouais.
Mais donc, c'est vrai qu'il faut adapter. C'est-à-dire que vous avez des bases. À chaque fois, vous dites souvent une huile sèche ou un beurre, ou voilà. Mais par contre, en fonction du type de peau, il y a telle ou telle matière première qu'on choisit. Hein, c'est ça. C'est pour les peaux sèches, par exemple, on choisira plutôt quoi comme produit à mettre dedans?
Alors c'est clairement l'avantage de la cosmétique maison, c'est de personnaliser ses produits. Pour une peau sèche, on peut mettre l'amande douce, l'huile d'olive pour une peau vraiment très très sèche. Hein, ça permet aussi d'utiliser ce qu'on a dans ses placards sans forcément investir énormément. On peut mettre une huile de bourrache aussi pour les peaux sèches et matures.
D'accord, il y a pas mal de choix, mais tout ça, toutes les recettes sont dans votre livre. Vous avez parlé un petit peu des huiles essentielles qui donnent souvent aussi une bonne odeur, très agréable à appliquer sur le corps. Mais les huiles essentielles, vous le dites dans votre livre d'ailleurs, hein, il faut faire très attention, hein, c'est pas pour tout le monde. Pour qui on évite vraiment qu'on le sache ?
Alors les huiles essentielles, c'est un concentré d'actifs assez puissant. Issus des plantes. Et donc, il faut être vigilant quand on est enceinte, quand on allaite, quand on est épileptique, quand on a une santé qui est fragile d'une manière générale. Et aussi les enfants. Les enfants de moins de 6 ans, il faut être vigilant par rapport à ça.
Très bien. Merci beaucoup, Pauline Deweck, d'être venue sur notre plateau nous apprendre donc quelques rudiments de la fabrication des produits beauté maison. Je rappelle le titre de votre livre, Ma cosmétique minimaliste, le guide pratique des cosmétiques maison, paru chez Thierry Soucard Édition. Merci encore.
Merci, Mélanie.
Dans un instant, notre chronique, les mots du quotidien. Et aujourd'hui, on va parler des risques d'intoxication au monoxyde de carbone. Comment les éviter, comment les reconnaître, on vous dira tout. À tout de suite sur Europe 1.
Mélanie Gomez sur Europe 1. Sans rendez-vous, 15h, 16h sur Europe 1. Mélanie Gomez.
Votre émission Santé sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h en compagnie du docteur Jimmy Mohamed. Alors il est temps maintenant de passer à notre séquence Les mots du quotidien. Et aujourd'hui, on parle des risques d'intoxication au monoxyde de carbone. Savez-vous qu'elle cause une centaine de décès chaque année? Savez-vous reconnaître les symptômes d'ailleurs de cette intoxication et comment l'éviter? Benjamin Lévesque a été vous donner la parole sur le sujet. On écoute son micro-trottoir.
L'intoxication au monoxyde de carbone...
Ah. Pour moi, c'est lié à la pollution des voitures surtout, c'est-à-dire les pots d'échappement. On cuisine avec le gaz toute l'année, plus en hiver parce que peut-être en air, pas autant qu'en été.
Est-ce que ça s'échappe de quelque chose qu'on a chez soi?
Et j'ai entendu par ailleurs que l'endroit le plus pollué, c'est à l'intérieur des maisons, qu'il faut aérer. Donc moi, je suis une gaga d'aération, mais tous mes gamins, tous les jours, je ouvre toutes mes fenêtres.
Je pense que c'est dû souvent aussi à des problèmes de vieux chauffage ou autres qui peuvent prendre feu ou autre. Une fois endormie, une personne âgée ne va pas se réveiller parce qu'elle est dans son sommeil et ne se rendra pas compte... Parce que je pense qu'avec l'âge, on sent moins les choses et voilà.
Ah mais j'imagine qu'effectivement, le gaz est un peu traître, parce qu'effectivement, c'est peut-être indolore.
Je sais pas, ça te met dans les vapes et puis tu peux peut-être mourir.
Mais c'est grave parce que du coup, ça atteint les poumons et on étouffe et on peut en mourir, ouais.
Alors Jimmy, l'intoxication donc au monoxyde de carbone, c'est chaque année, donc je viens de le dire, une centaine de décès. Mais la période la plus critique, c'est vraiment en ce moment. Hein.
Oui, vous l'avez dit, c'est la première cause de mortalité accidentelle d'origine toxique. Et seuls 70% des intoxications sont diagnostiquées. Alors ça augmente au fur et à mesure que les températures baissent, car c'est lié au fait à un système de chauffage souvent qui est défaillant.
Quand il fait froid, on rallume les chauffages.
Exactement.
En fait,
et le problème, c'est que ce gaz, il est invisible, évidemment, parce que c'est un gaz. Il est inodore, donc on ne le sent pas. Il n'est pas irritant et indétectable. Et donc à ce moment-là, on peut avoir des symptômes sans s'en rendre compte. Et on met en cause effectivement les combustibles, donc tout ce qui est gaz naturel, le bois, le charbon, le butane, le propane, l'essence, et donc tout ce qui est susceptible de nous chauffer, notamment dans cette période d'hiver.
Quand ça fonctionne mal, ça peut produire du monoxyde de carbone. Alors pourtant, et c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui, des gestes simples, Jimmy, permettent de vraiment réduire drastiquement les accidents.
Eh ben oui, donc avant l'hiver, il faut systématiquement faire vérifier, entretenir les systèmes d'installation de chauffage et de production d'eau chaude, ainsi que les conduits de cheminée de fumée. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut ramoner la cheminée
chaque année
par un professionnel effectivement qui serait qualifié.
Moi, je le
tous
fais
les
chaque
jours.
Année.
Ouais, vous ramenez. Vous avez une cheminée d'ailleurs.
Ouais, vous ramenez
la cheminée. Et il faut aérer le logement tous les jours, même quand il fait froid, au moins 10 minutes. Et un invité nous avait dit que ça permettait aussi d'éliminer des perturbateurs endocriniens dont le principal réserve en la maison, ce sont la poussière. Donc on aère la 10 minutes par jour. On évite d'obstruer les systèmes de ventilation. Donc on n'obstrue pas. Et puis on respecte les conditions d'utilisation des chauffages. Ce n'est pas le moment d'utiliser le barbecue à la maison parce qu'à ce moment-là, on risque de faire une intoxication et on n'utilise pas effectivement notamment une cuisinière qui serait un peu défectueuse. Donc quelques règles simples pour éviter de tomber intoxiqué.
Et oui, par contre, c'est quand même, excusez-moi, j'ai un petit fou rire, ça arrive de temps en temps. Il y a des signes, par contre, quand on est intoxiqué, c'est quoi ces premiers signes?
Alors, le problème, c'est que le monoxyde de carbone. Le problème, c'est que le monoxyde de carbone entre en compétition avec l'oxygène qui se fixe sur l'hémoglobine. Donc, il y a des symptômes liés à l'hypoxémie, le fait d'avoir moins d'oxygène. Mais en plus de ça, le dioxyde de carbone est directement toxique sur certains tissus et ça commence par des maux de tête, nausées, des vomissements, sans diarrhée, un malaise qui survient dans une collectivité où plusieurs personnes auraient tout d'un coup les mêmes symptômes.
Ça doit
immédiatement vous faire suspecter une intoxication au monoxyde de carbone. Premier réflexe, on aère la pièce, on fait sortir les gens et on appelle le 15 ou le 17 car c'est une urgence vitale.
17, 18 plutôt, non ?
18h17, c'est la police pendant le 15 ou le 18, ou éventuellement le numéro d'urgence qui est le 112.
Merci beaucoup, Dimi Mohamed, pour tous ces conseils. Europe 1. Dans un instant, la dernière partie de cette émission, vous êtes avec nous jusqu'à 16h et restez surtout car juste après, on se retrouve pour la chronique sexo. Aujourd'hui, Catherine Blanc, notre sexologue, nous dira comment remédier à l'âge adulte à l'absence d'éducation sexuelle dans son enfance. Restez sur Europe 1.
Mélanie Gomez sur Europe 1. Europe 1, Mélanie Gomez.
La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15h, toujours à mes côtés, le docteur Dimi Mohamed. Et elle arrive à l'instant, Catherine Blanc, notre psychologue, notre psychanalyste, pardon, et sexologue. Catherine, vous allez bien, Catherine ?
Je vais très bien, bonjour Mélanie, bonjour Dimi.
Alors aujourd'hui, on va essayer de répondre à cette question d'Aurélien, 24 ans, je vous la lis. Mes parents ne parlaient pas de sexualité lorsque j'étais petit, j'ai du mal à en parler aujourd'hui du coup. Comment remédier à cette absence d'éducation maintenant que je suis un adulte ? Alors Catherine, d'abord, il est important de parler vraiment de sexualité à ses enfants. Lui, ça a l'air de lui avoir manqué, mais est-ce que c'est une obligation ?
Non, bien sûr que non. Alors, c'est très intéressant parce que, évidemment, toute une génération s'est exprimée justement là-dessus en disant « mes parents ne me parlaient pas de sexualité ». C'est-à-dire, après, passé les années 70, avant, il n'était pas question de parler de sexualité. Puis, à partir des années 70, il était question d'en parler, de
beaucoup,
le vivre,
ouais,
etc. Et dès que des familles n'avaient pas cette communication-là, eh bien, on recevait dans nos cabinets des patients ou des patientes qui disaient avoir souffert dans leur sexualité, être en difficulté avec leur sexualité parce qu'on ne leur en avait pas parlé. Mais sachez que on reçoit aussi les mêmes qui disent « mes parents m'ont traumatisé parce qu'ils parlaient de sexualité ».
Tout le temps.
Voilà. Donc en fait, c'est pas tellement ce que disent les parents qui est important, parce que s'il y a bien de quelqu'un dont il est difficile de recevoir et d'accueillir le sujet de la sexualité, c'est bien sûr de nos parents, parce que nous avons toujours peur que cela suscite une excitation, suscite une curiosité et que ça mêle nos parents à cette excitation et cette sexualité.
Un truc c'est-à-dire, un peu malsain, quoi, c'est ça.
Voilà, une idée que ça va déclencher quelque chose d'oedipien, d'incestuel, bien sûr pas d'incestueux, mais d'incestuel, donc sur la forme psychique incestueuse. Du coup, ça bloque plus qu'autre chose. Alors évidemment, si les parents disent « non, on n'en parle pas », non, je t'interdis.
Tu me poses des questions, j'y réponds pas.
Ouais, voilà, ça c'est autre chose. Mais que des parents ne parlent pas de sexualité avec leurs enfants, c'est aussi laisser les enfants aller glaner leurs informations, leur curiosité, leur excitation et le moyen de les satisfaire.
Jimmy ?
Mais le risque, c'est que justement, si on ne leur en parle pas, que ce soit peut-être la pornographie qui les éduque, non ? Et qui du coup leur mettent dans la tête des images qui ne sont absolument pas celles des relations, soit sexuelles ou même amoureuses.
Oui, c'est vrai, vous avez raison, parce qu'aujourd'hui, le monde de la pornographie est vraiment rentré dans le quotidien des gens. Ce n'est pas comme quand il fallait faire des démarches incroyables pour obtenir des images pornographiques. Donc effectivement, s'il n'y a pas de discours d'un côté, qu'il y en a un hyper discours et extrêmement expressif et violent, évidemment que ça ne laisse pas le moyen à l'enfant de pouvoir arbitrer correctement les choses. Ceci étant, aujourd'hui, il n'a pas eu de discours sur la sexualité. Il peut se dire que lui, il peut apprendre à mettre des mots justement sur la sexualité.
Mais est-ce qu'il est obligé d'en parler d'ailleurs ? Est-ce qu'on est obligé de parler de sexualité ?
On n'est pas obligé d'en
parler.
Nous,
on en parle dans son rendez-vous parce qu'on en a envie et que c'est très intéressant. Mais est-ce que dans sa vie de tous les jours, on est obligé de parler de sexualité ?
Non, on n'est pas obligé de parler de sexualité. Maintenant, on peut se poser la question, pourquoi parler de sexualité fait rougir ou met mal à l'aise ? On a le droit d'ailleurs à nos pudeurs. Je me souviens d'une émission dans laquelle j'avais été invitée en télévision. Et puis, le réalisateur m'avait dit à la fin de l'émission, « Oh là là, Catherine, c'est bien, vous dites les vrais mots, les mots chocs. » Et alors, je me demandais quel mot j'avais dit. J'avais dit « vagin ».
Wow.
Donc, c'est pour vous dire qu'effectivement, nous n'avons pas tous la même compétence à accueillir les mots parce qu'ils sont toujours porteurs d'imaginaire, toujours porteurs de nos fantasmatiques, plus ou moins importantes. Et nous avons à respecter les pudeurs de chacun. Ceci étant, cette question, on ne m'en a pas parlé. Et ne pas m'en avoir parlé ne veut pas dire avoir posé un interdit. Et je crois que c'est ça la question. C'est que mes parents ne m'en ont pas parlé, mais ils ne m'ont pas posé un interdit. Ils ont respecté ma pudeur. À moi de ne pas continuer à m'interdire et à essayer de réfléchir ce qui est acceptable, pas acceptable, ce dont j'ai envie de parler ou pas, ce que j'ai envie de communiquer ou non. Mais à mon tour, dans le respect, si c'est un enfant, de sa propre pudeur.
Jimmy ?
Je ne sais pas si on est mal à l'aise pour en parler. Est-ce qu'on peut, je ne sais pas, donner un préservatif discrètement, le poser sur la table ou dans le sac de son enfant si jamais il part à une soirée ? Ou ça, c'est très maladroit de faire ça, c'est-à-dire de ne pas parler et de lui mettre la capote en disant « protège-toi ».
C'est compliqué parce que quand on met effectivement un préservatif comme ça, qu'on glisse dans la poche, ça veut dire qu'on donne l'injonction de faire l'amour aussi. Donc il faut, si on ne dit pas « si jamais tu avais envie, voici de quoi te protéger de maladie », ou de grossesse, c'est pas la même chose que le glisser en disant « tu as l'âge, tu devrais passer à l'acte ». Ce qui pousse l'enfant et qui fait que l'enfant a le sentiment d'être vu parce qu'il sortait avec une fille ou avec un garçon et tout d'un coup, il est vu en devoir de le faire alors qu'il a envie de le faire secrètement éventuellement. Donc c'est compliqué, je trouve que c'est plutôt à ce moment-là à quelqu'un d'autre, si on ne sait pas en parler, à un parrain, une marraine, un oncle, une tante, quelqu'un qui est proche de l'enfant et en tranquillité, dont on sait le discours mesuré, pour qu'il n'y ait pas un delta entre la pudeur des parents et l'impudeur éventuelle d'un autre adulte. Mais voilà, pouvoir le dire de façon peut-être humoristique et plutôt souple, le faire dire par quelqu'un d'autre.
Merci beaucoup Catherine pour tous ces conseils et donc à demain, voilà c'est la fin de cette émission. Demain dans Sans Rendez-vous, une émission consacrée au Téléthon. Nous verrons à quoi servent vos dons, quelles sont les nouvelles avancées scientifiques et médicales qui permettent même de guérir aujourd'hui certaines maladies rares et des maladies plus fréquentes, oui tout ça grâce au Téléthon. Mais tout de suite on retrouve Mathieu Noël et son équipe sauvage. Bonjour Mathieu.
Bonjour Mélanie, vous restez avec nous, l'équipe sauvage arrive pour 2 heures de rire et de découverte en compagnie d'un invité exceptionnel aujourd'hui, Ibrahim Malouf, c'est probablement le plus grand trompettiste français, on peut le dire. Et vous allez voir qu'il est en plus hyper sympa, ce qui ne gâche rien. A tout de suite.
Beau programme Mathieu, on sera à l'écoute. Je vous souhaite une bonne émission et vous, restez sur Europe 1. Hein.